Moteur. Ça tourne. Action.
Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne.
Alors moi, il m'épate.
Bienvenue au club, Madame Béteil.
Puisque tu n'es pas venu à la gare verte, c'est la gare verte qui vient à toi.
Bonjour à tous, ici Agnès, des Arcanes du cinéma. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année 2020. Attention, petite info, à partir du mois de janvier, la formule des podcasts va changer. Je vous reparle de tout ça à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans les années 1990. Une période où le cinéma français résiste à l'essor du numérique et reprend un peu du poil de la bête grâce à de gros succès en salle. On partira ensuite à la rencontre de Sophie Marceau, l'une des stars françaises de la décennie 90. Et pour finir, comme toujours, un petit aperçu de deux films très différents, La gloire de mon père, l'adaptation des mémoires de Marcel Pagnol, et Tati Daniel, une comédie dramatique qui pose un regard très acide sur la vieillesse. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le cinéma français des années 90 est un cinéma en lutte. En lutte contre les films américains, qui représentent alors 60% du marché, mais aussi en lutte contre le numérique. Et oui, ça y est! En plus des magnétoscopes et des cassettes vidéo, les DVD et les ordinateurs font leur apparition dans la vie des Français. Ce sont des nouveaux supports pour l'image, et donc, forcément, il y a un impact sur le cinéma français qui est déjà un peu mal en point depuis les années 70. Avec le déploiement progressif d'Internet, dès 1994, et la commercialisation des lecteurs DVD, à partir de 1998, les spectateurs français choisissent les films qui les intéressent parmi une large sélection, quitte à délaisser complètement les cinémas. Au passage, qui dit développement d'Internet dit aussi début du piratage, surtout à partir des années 2000. Bref, pourquoi se déplacer encore dans les salles quand on peut regarder un super film chez soi, à moindre coût, voire gratuitement? Remarquez qu'aujourd'hui, avec Netflix et les plateformes de streaming, la question est toujours d'actualité. En fait, le déploiement du numérique va rendre le public français encore plus exigeant. Désormais, les gens veulent bien aller au cinéma, peu importe le genre, comédie, drame, film historique, mais à condition que ça en vaille vraiment la peine. Dès lors, le 7e art doit s'adapter et repenser son fonctionnement commercial. À partir des années 90, ce n'est plus tellement le cinéma qui propose des films au public, mais c'est le public qui impose, en quelque sorte, ses goûts aux réalisateurs. Pour schématiser, on va dire qu'un film qui fonctionne et qui fait des entrées, c'est un film qui colle aux attentes et aux préjugés du public. Le réalisateur doit désormais se mettre à la place du spectateur lambda et se demander qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui va le faire rêver, qu'est-ce qui va le faire rire. Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré, sorti en 1992, c'est l'exemple type. Dans l'esprit des gens, le Moyen-Âge, c'est quoi?
Bonsoir! C'est un génie! Que trépasse si je faiblis!
C'est des chevaliers qui puent et qui passent leur temps à faire la guerre.
Oh, il pue des pieds, c'est une infection! On peut pas rester une minute de plus à l'intérieur!
Des châteaux forts où on emmure des sorcières vivantes.
On va rencontrer la sorcière de Malcombe.
Elle peut transformer une armée en vomis de crapaud. On dit que si elle vous touche, les pustules vous jaillissent du corps. On perd ses cheveux et on pisse soi de la boue.
Et des gueuletons où tout le monde mange n'importe comment.
Tu veux un serment? Que je pisse un poison?
Père, vous aviez juré pour mes épousailles de ne pas rôter au dîner.
Bien sûr, Les Visiteurs, c'est avant tout une comédie. Le but premier est de divertir, de faire rire les gens. Mais le film reprend énormément de clichés sur le monde médiéval, sans chercher à les dépasser. Le spectateur reste dans sa zone de confort, le film lui correspond, lui plaît, il en parle autour de lui, et c'est la clé du succès. Les Visiteurs ont attiré 13,8 millions de spectateurs, le film a donc été en tête du box-office français en 1993. l'avez compris, dans les années 90, le cinéma devient plus que jamais un business que l'on veut rentabiliser, comme n'importe quelle entreprise. À la fin des années 80, c'était déjà le début des super-productions françaises pour essayer de concurrencer l'industrie américaine. Des films comme Le Grand Bleu ou Le Nom de la Rose s'inscrivaient déjà dans cette logique. Mais dans les années 90, les super-productions françaises sont de plus en plus fréquentes. L'argent est désormais placé au premier plan des préoccupations, le marketing et la promotion d'un film prennent autant d'importance que le scénario ou le choix des acteurs. Les films qui attirent le plus de public sont désormais ceux qui ont le plus gros budget. Durant cette décennie, le cinéma français connaît un petit âge d'or. Jack Lang, qui était alors ministre de la Culture sous François Mitterrand, soutient activement le 7e art. Il contribue à faire du cinéma français une exception culturelle, c'est-à-dire que les œuvres audiovisuelles produites en France ont un statut à part. Jack Lang cherche ainsi à protéger les films français du libre-échange et de faire en sorte que ce ne soient pas des biens marchands comme les autres. Cette politique assure une certaine diversité au sein du cinéma français et elle permet à des jeunes réalisateurs de percer, ainsi qu'aux films d'art et d'essai de continuer à exister parallèlement aux super-productions. Ces jeunes réalisateurs, comme Cyril Collard ou Mathieu Kassovitz, proposent généralement des films inspirés de leur histoire personnelle ou alors des films qui portent sur des thèmes plutôt sociaux. D'une certaine manière, c'est un peu le retour du cinéma militant présent dans les années 60-70. C'est le cas par exemple de La Haine de Mathieu Kassovitz, un film qui est sorti en 1995 au moment des émeutes dans les banlieues. Mathieu Kassovitz propose dans ce film une réflexion sur la violence et l'intégration dans les quartiers difficiles. Dans les années 90, si on se place à l'entrée d'un cinéma et qu'on regarde les affiches, on a le choix, globalement, entre quatre grands types de films. D'un côté, on a les comédies, type Les Visiteurs, Un Indien dans la ville ou Le Dîner de cons.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Mais aussi les films plus ou moins historiques, notamment Jeanne d'Arc de Luc Besson en 1999 ou La Reine Margot de Patrice Chéreau. Et sinon, il y a aussi les films sur les problèmes sociaux ou alors les adaptations littéraires, comme Germinal. Le paysage cinématographique français est donc très diversifié, tous les styles de films sont produits. Mais tous n'attirent pas autant de public, même si globalement, le nombre d'entrées en salle repart timidement à la hausse à partir de 1993. Point positif, à cette époque, le cinéma tricolore s'exporte de plus en plus à travers le monde. Au niveau international, la France est alors le troisième pays producteur de films, après les États-Unis et l'Inde. Et au niveau européen, cocorico, la France est la première industrie cinématographique.
Boom, pas sur Boom.
Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon.
Mais c'est pas un goûter d'enfant. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon vient d'inviter ma petite fille à sa surboom? J'ai l'air débile.
Eh oh, un autre ton, hein.
Les premières soirées, les disputes avec les parents, le premier amour au collège. Sophie Marceau, alors âgée de 13 ans, devient une vedette, une star du cinéma français. Mais au fait, à part son rôle dans la Boom, qu'est-ce que vous savez d'elle? Allez, on rembobine sa vie. Sophie Marceau s'appelle en réalité Sophie Maupu. Elle naît à Paris le 17 novembre 1966. Elle fait ses études au lycée Lemonnier, mais veut rapidement travailler et se confronter à la vie. Pour gagner de l'argent de poche, elle s'inscrit dans une agence de publicité pour enfants et adolescents. En fait, la jeune Sophie arrive dans le monde du cinéma presque par hasard. En 1980, elle apprend par une amie que le réalisateur Claude Pinoteau cherche des adolescents pour tenir les rôles de sa future comédie, La Boom. Elle se présente alors au casting et décroche le rôle de Vic, l'adolescente de 13 ans un peu rebelle qui découvre les soirées et les amourettes du collège. La Boom remporte un grand succès lors de sa sortie 4 millions d'entrées en France en 1980 et près de 15 millions d'entrées en Europe. Sophie Maupus prend alors le pseudonyme de Sophie Marceau. Elle passera désormais le restant de sa vie sous les projecteurs. 2 ans plus tard, en 1982, elle reprend le rôle de Vic dans La Boum 2. Elle remporte ainsi le César du meilleur espoir féminin et intègre l'année suivante le cours Florent dans la même classe que le comédien Francis Huster. La jeune fille fait alors une demande d'émancipation afin de pouvoir signer elle-même ses contrats. C'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans seulement, elle rachète son contrat d'exclusivité avec Gaumont pour 1 million de francs. Ça lui permet de jouer avec les producteurs de son choix sans restriction. Le public, qui avait déjà été conquis par ses 2 premiers films, la retrouve à nouveau dans L'étudiante, en 1988, une comédie romantique où elle joue aux côtés de Vincent Lindon. À la fin des années 80, elle se confiait sur son début de carrière au micro de l'émission Scoop à la Une, animée par Thierry Ardisson.
Est-ce qu'on peut dire que le jour où on t'a dit que tu étais prise, enfin choisie,
ouais,
pour faire La Boum, c'était le scoop de ta vie? Non? Il y a un autre moment plus important?
Maintenant, oui, je me rends compte que c'était un conte de fées, ça a été un grand moment. À l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte. On m'avait proposé de faire un film, je ne savais pas trop ce que c'était, La Boum. Enfin, c'était pour moi, c'était plutôt un moyen de passer mes vacances agréablement avec d'autres jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi dans ce film. C'était un moyen pour moi de passer le temps. Je ne me rendais pas vraiment compte. À 13 ans, on est encore un peu très petit.
Oui. Ouais. Alors le scoop de ta vie, c'est quoi, Sophie?
Ça doit être ça, certainement. Ça doit être ça. Parce que ça, c'est le début de plein de choses et c'est le début d'une passion surtout. Et c'est important d'avoir une passion dans la vie.
Mais la consécration de Sophie Marceau arrive réellement dans les années 90. Après avoir joué aux côtés des monstres sacrés du cinéma, tels que Gérard Depardieu ou Jean-Paul Belmondo dans Joyeuse Pâques, Sophie Marceau perce à Hollywood. En 1995, elle est aux côtés de Mel Gibson dans Braveheart, un film historique qui retrace la lutte pour l'indépendance de l'Écosse au Moyen-Âge. En 1999, Sophie Marceau endosse même le rôle d'une méchante James Bond girl face à Pierce Brosnan dans Le Monde ne suffit pas. Lors du tournage de ce film, Sophie Marceau rencontre le producteur Jim Lemley, qui sera d'ailleurs son compagnon jusqu'en 2007. Depuis le début de sa carrière, Sophie Marceau a joué, et joue encore, dans des films très divers. Mais dans les années 90, elle est plusieurs fois tête d'affiche dans des films d'époque ou de KPDP inspirés d'un fait historique. Le public la retrouve dans des super-productions comme Chouan, de Philippe de Broca, Marquise, de Vera Belmont, mais surtout dans La fille de D'Artagnan, de Bertrand Tavernier, sortie en 1994. Le scénario est librement inspiré du roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. La fille de D'Artagnan, c'est l'histoire d'Héloïse, fille du célèbre mousquetaire, qui assiste au meurtre de la mère supérieure du couvent où elle est élevée. Persuadée qu'un complot se trame contre Louis XIV, Héloïse prend la route de Paris pour y retrouver son père et avertir le premier ministre, le cardinal Mazarin. Mais D'Artagnan, joué par Philippe Noiret, est désormais un héros fatigué et disgracié. Héloïse ne se décourage pas, quitte à lutter seule. La fille de D'Artagnan a totalisé près d'1,5 million d'entrées en 1994, et, pour la petite histoire, sachez que ce film a été tourné, entre autres, au château de Maisons-Laffitte et de Vaux-le-Vicomte, mais aussi en Dordogne, à Sarlat-la-Canéda. En plus de ses succès à l'écran, Sophie Marceau passe de l'autre côté de la caméra. Au début des années 2000, elle se lance dans la réalisation. En 2002, elle produit son premier drame, Parlez-moi d'amour, qui s'appuie en partie sur sa propre histoire, et qui est primé au Festival de Montréal. Son premier polar, La disparue de Deauville, sort quant à lui en 2007, mais reçoit un accueil assez mitigé. Sophie Marceau continue parallèlement à jouer, notamment dans des comédies, comme Une voisine si parfaite en 2018, ou dans des drames indépendants. Jurée au Festival de Cannes en 2015, elle est aujourd'hui encore en tête des personnalités féminines préférées des Français. Et si vous avez hâte de retourner au cinéma, en 2021 sortira un nouveau film avec Sophie Marceau. Ça s'appellera « Tout s'est bien passé » de François Ozon. Vous l'avez compris, le cinéma des années 90 est marqué par quelques super productions françaises ou par des comédies désormais célèbres qui ont grimpé très haut dans le classement du box-office. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter deux films qui ont tous les deux réalisé de belles performances lors de leur sortie en salle. Alors sortez les pop-corns, voilà de quoi passer une bonne soirée au coin du feu.
Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban.
Il y a quelques semaines, dans l'un des tout premiers podcasts des Arcanes du cinéma, je vous avais parlé de Marcel Pagnol, auteur français et producteur de films. Après avoir été élu à l'Académie française, Pagnol a écrit ses Souvenirs d'enfance en trois tomes, dont La gloire de mon père et Le château de ma mère, tous deux publiés en 1957. De son vivant, Pagnol a voulu adapter son œuvre au cinéma, mais la vie ne lui en a pas laissé le temps. La gloire de mon père a donc été réalisée par Yves Robert en 1990, 16 ans après sa mort. Le film est une adaptation à la lettre près du roman de Pagnol. C'est un biopic très fidèle à l'histoire de l'auteur. Si vous aimez la Provence, les parties de chasse et de pétanque, et les belles histoires familiales, ce film est fait pour vous. La gloire de mon père raconte les premières années de la vie de Marcel Pagnol, fils d'un instituteur marseillais. Le spectateur fait la rencontre de son petit frère, Paul, de sa mère, Augustine, et de l'oncle Jules, un personnage haut en couleur qui parle avec un accent terrible. Durant l'été 1904, la famille Pagnol loue une maison de vacances au cœur des collines marseillaises. Pour Marcel, c'est le début d'une grande aventure. Pendant tout le film, le spectateur est placé dans la tête de ce petit garçon de 9 ans, avec ses rêves, ses héros imaginaires, son insouciance. Marcel, petit citadin, fait notamment la rencontre de Lily Desbelons, un jeune paysan qui lui fait découvrir la nature. Marcel s'échappe dans la garrigue, parfois très loin de la maison. Un beau jour, son père, Joseph, accomplit un exploit à la chasse. Il abat coup sur coup deux bartavelles, des sortes de grosses perdrix, ce qui lui apporte son heure de gloire au village.
Mon cœur sauta dans ma poitrine. Des perdrix royales.
Des bartavelles. Vous avez eu la prétention de faire le coup du roi en un doublé sur des bartavelles. Des bartavelles qui venaient vers moi.
J'ai pourtant vu voler des plumes.
Oh, moi aussi j'en ai vu voler de belles plumes. Qui emportaient les bartavelles à 60 km à l'heure jusqu'au haut de la barre. Où elles doivent bien se foutre de nous.
Il les a tués. Il les a tués. Vous faites la deux, il les a tués.
La gloire de mon père a été saluée par la critique au moment de sa sortie. Il a d'ailleurs été nommé 4 fois au César. Le film a occupé la deuxième place du box-office en France, en 1990, avec plus de 6 millions de spectateurs. Bref, c'est de la bonne humeur à l'état pur, le tout accompagné par la très belle musique de Vladimir Kosma. On change de style, on change d'époque, on change de genre, place à une comédie un peu particulière, Tati Daniel. Attention, ce n'est pas un film comme les autres, il peut dérouter certains d'entre vous. Tati Daniel, c'est une comédie acide qui fait la satire d'un sujet un peu tabou, la vieillesse. Sorti en 1990, ce film d'Étienne Châtillier met en scène une vieille dame veuve, mesquine et capricieuse, jouée par Tilla Shelton. Daniel Billard, 82 ans, une grande tante odieuse que personne ne voudrait avoir. Menteuse et cynique, elle passe ses nerfs sur Odile, une femme qui est à la fois sa gouvernante, sa femme de ménage, sa cuisinière, sa dame de compagnie et son souffre-douleur. Bref, son esclave. Un jour, Odile meurt brutalement. Daniel est alors secouru par son neveu, Jean-Pierre, qui est orphelin. Jean-Pierre, sa femme Catherine et leurs deux enfants font donc le choix d'héberger chez eux Tati Daniel dans leur domicile parisien. Mais bientôt, ils regrettent leur générosité. Tati Daniel est une vraie teigne.
Samedi, je voudrais aller choisir le papier pour la chambre de Tati. On pourrait l'emmener. Tu crois que ça l'amuserait ?
Oui, sûrement.
Tati, samedi, ça vous amuserait de venir chercher votre papier pour votre chambre?
Je vois vraiment pas ce qu'il y a d'amusant, mais le mien est tellement laid.
Vous ne mangez pas, Tati? Merci, j'ai pas faim.
Qu'est-ce que c'est comme viande?
Un petit cassis de veau basilic.
J'ai horreur du basilic.
Oh, mais je suis désolée, je savais pas.
Vous le saurez.
Tu sais, je crois qu'on a fait une énorme bêtise en la prenant avec nous. Je veux te dire quelque chose, mais ne dis rien, Catherine. Je crois qu'elle est méchante.
Mmh, c'est ça, t'as raison. Elle est méchante. J'ai même jamais vu quelqu'un d'aussi méchant.
Jean-Pierre et Catherine souffrent en silence jusqu'au jour où ils décident de s'offrir quelques semaines de vacances en Grèce. Mais qui va garder Tati Daniel? Le couple recrute alors Sandrine, une jeune fille au pair, jouée par Isabelle Nanty. Sandrine cerne très vite la personnalité de Tati Daniel, mais décide de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Un bras de fer s'engage alors entre les deux femmes, qui finissent par devenir amies. Tati Daniel est un film surprenant du début à la fin, qui casse complètement les codes et ce qu'on a l'habitude de voir sur la vieillesse. Si vous voulez rire, mais rire un peu jaune quand même, n'hésitez pas, Tati Daniel, c'est une comédie qui décape. Avant de se quitter, j'ai deux annonces importantes. À partir du mois de janvier, la formule des podcasts va changer. Les 8 épisodes des Arcanes du cinéma qui sont sortis depuis début septembre forment un récit chronologique et aujourd'hui, avec ce podcast, on est arrivé au bout du XXe siècle. Mais pas de panique, les Arcanes du cinéma vont continuer. À partir du 9 janvier 2021, on se donnera rendez-vous tous les samedis pour un podcast un peu plus court. Chaque semaine, vous découvrirez un peu plus en détail un acteur, un film ou un réalisateur plus ou moins connu. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci en tout cas pour votre enthousiasme depuis le début du mois de septembre. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous ma passion pour le vieux cinéma français. Et sincèrement, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement, que ce soit sur les plateformes Spotify, Deezer ou sur les réseaux sociaux. Franchement, merci, c'est complètement inattendu. Deuxième info, en ce moment, j'organise un super concours de Noël sur Instagram. C'est jusqu'au 24 décembre, donc il n'est pas trop tard pour participer. Le nom du vainqueur sera révélé le jour de Noël. Et il ou elle remportera un mug à l'effigie de son acteur ou de son actrice préférée. Voilà, je vous dis à très bientôt, rendez-vous le 9 janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes et un joyeux Noël.